Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
J'accueille aujourd'hui dans l'émission Un jour dans l'histoire l'historien Jacques Fontaine, historien des littératures de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge, en particulier de l'Espagne, pour nous parler justement de la littérature latine chrétienne et la culture de l'Antiquité tardive. Nous allons aujourd'hui évoquer ensemble les noms des pères de l'Église, parler par exemple de Tertullien, d'Ambroise de Milan, de Jérôme, de Commodien, de Lactance, à partir des entrées du Dictionnaire de l'Antiquité, publié à l'automne 2005, dirigé par Jean Leclan, qui représente une entreprise éditoriale exceptionnelle, puisqu'elle a réuni à peu près 500 collaborateurs, aboutit à la rédaction de 3200 entrées. C'est une sorte d'invitation continuelle au voyage dans le monde antique, réunissant les civilisations égyptiennes, grecques, romaines, le tout autour de notre fameuse Méditerranée. Et si d'ordinaire, les limites de l'Antiquité vont de la naissance de l'écriture à 476 après Jésus-Christ, eh bien justement, l'originalité de ce dictionnaire est d'offrir de très larges limites chronologiques sur lesquelles nous allons évidemment abondamment revenir avec Monsieur Jacques Fontaine. Pour vous présenter rapidement Jacques Fontaine, je dirais que vous avez été professeur à la Sorbonne, professeur de langue et littérature latine à la Sorbonne, que vous avez été membre du comité national du CNRS, mais également membre de différents comités de l'association Guillaume Budet, de la commission internationale d'histoire ecclésiastique comparée. Vous avez été membre aussi de nombreuses académies étrangères. Et votre spécialité parmi toutes vos recherches porte sur Isidore de Séville et la culture classique. Alors, Jacques Fontaine, bonjour.
Bonjour, madame.
Alors, commençons par... Les historiens habitués des périodisations parlent-ils maintenant d'antiquité tardive? Jacques Fontaine, quelle définition d'abord en donneriez-vous et quelle place lui est-elle accordée dans le Dictionnaire de l'Antiquité publié à l'automne 2005 sous la direction de Jean Leclan, égyptologue de renommée internationale et actuellement secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres?
Première réponse, je pense qu'il faut bien voir l'affinité profonde qu'il y a entre la personnalité de Jean Leclan et la conception du dictionnaire. Jean Leclan est à la fois un spécialiste pointu, qui a fait des fouilles très nombreuses à Saqqara, dans les pyramides, etc., et qui tous les ans faisait le tour total de tous les chantiers de fouilles pour savoir exactement ce qui se passait en Égypte. Donc, un spécialiste extrêmement poussé. Mais en même temps, il est resté l'homme qu'il avait été dans sa jeunesse, c'est-à-dire un homme qui a commencé par l'Antiquité classique, qui n'a pas oublié l'importance de l'Antiquité classique, et qui s'est ouvert à beaucoup d'autres curiosités autour justement de l'égyptologie, qui n'a pas borné l'égyptologie comme elle était peut-être encore au XIXe siècle, à être une spécialité fermée sur elle-même, avec des gens qui d'ailleurs ne venaient pas, si souvent ne venaient pas de l'université, mais qui fait des métiers qui n'avaient peu de rapport avec la recherche et avec l'égyptologie. Tandis qu'aujourd'hui, véritablement, grâce à sa personnalité, eh bien, le dictionnaire est ouvert. Le dictionnaire s'est étendu pour envisager une antiquité que je dirais globale. Il s'est étendu dans l'espace, en allant maintenant de l'Égypte jusqu'à l'Irlande, des pays celtiques jusqu'aux confins justement de l'Asie profonde. Et d'autre part, il s'est étendu dans le temps, puisque ça n'est plus la conception d'une antiquité classique bornée au premier siècle de notre ère, de laquelle il n'y avait point de salut ni avant ni après, ce qui était encore vrai très récemment. J'ai un très bon collègue que je n'aimerais pas, il a s'y est disparu, mais qui a fait une littérature latine qui s'arrêtait avec un grand coup de ciseau, sans rien dire de ce qui se passait après, à Apulée, et qui ne parlait même pas de Tertullien, qui est sensiblement contemporain d'Apulée. Mais ensuite, alors, pour lui, c'était le néant. Ça, c'est une vision extrêmement ancienne. Je crois qu'elle est terminée, grâce à Dieu. Elle est terminée, pourquoi? Parce que nous sommes passés de la décadence à l'antiquité tardive. Alors là, il faut que nous entrions un peu dans le détail, d'autant plus qu'il manque au dictionnaire, on est là pour faire l'éloge du dictionnaire. Il manque un article antiquité tardive. Ça serait absolument nécessaire, parce que ça, les gens ne comprendront pas bien quel est le cadre des auteurs chrétiens, par exemple. L'antiquité tardive ne se conçoit qu'à partir de la condamnation qu'avaient faite les classicistes, et spécialement Gibbon, au XVIIIe siècle, de l'Empire romain tardif. Pour lui, c'était déclin et chute de l'Empire romain. C'est le titre du grand, de son grand ouvrage. Et il avait même commis cette phrase tout à fait étonnante et célèbre que pour lui était venu ensuite le triomphe de la barbarie et de la religion. Ce qui voulait dire qu'il les mettait un peu sur le même plan, sans le dire. Bien. Mais alors, les choses ont commencé à changer avec les archéologues. Ce sont les archéologues qui, au début du XXe siècle, ont découvert qu'il y avait du romain tardif d'abord. La Spätere Michel Kunstindustrie d'Alois Riegel en 1904 a marqué le départ de cette réflexion par laquelle on va passer d'une notion de décadence à une notion de mutation. C'est-à-dire, on ne va pas dire qu'il faut choisir entre, comme l'avait dit d'une façon très instigatrice, si j'ose dire, un petit peu exagérée, Marot, dans le titre de son admirable petit livre « Décadence ou antiquité tardive », comme si j'allais choisir et remplacer l'une par l'autre. Eh bien non, il y a des éléments de décadence qui vont passer dans la période de l'antiquité tardive, mais en même temps, il va y avoir autre chose. Et c'est justement cette autre chose que nous allons découvrir de divers points de vue. Alors, l'antiquité tardive, aujourd'hui, comment la définir? Elle est pour moi, si j'essaie une définition tout à fait personnelle, elle n'est peut-être pas bonne, justement, parce que je ne suis pas historien, c'est la dernière phase originale et créatrice de ce que nous appelons maintenant avec les Allemands l'antiquité hellénistique romaine. Puisqu'on a dit que la civilisation romaine était une civilisation grecque qui parlait latin, ce qui n'est pas entièrement faux. Donc, voilà cette période qui a sa personnalité et qui va être découverte peu à peu comme, selon le titre d'une très belle exposition d'art, justement de cette période en Amérique en 78, qui est un âge de spiritualité. Un âge, par conséquent, où païens et chrétiens vont se tourner vers un au-delà et vers une recherche de l'absolu à laquelle ils sont poussés un peu par les difficultés, justement, et les éléments, indubitablement, de décadence et de difficultés qui sont arrivés avec ce qu'on appelle, dans un article d'ailleurs qui est dans le dictionnaire, mais qui est un peu mi-figue, mi-raisin, sur la crise du IIIe siècle. Il y a une crise, y a-t-il une crise du troisième siècle? Eh bien oui, il y a une crise du troisième siècle.
Enfin, c'est un événement, enfin c'est plus qu'un événement, mais extrêmement important dans l'histoire
une concentration de difficultés pour l'Empire romain, du côté d'abord des empereurs qui sont succédés absolument comme des cartes qui s'abattaient l'une après l'autre, et on a parlé d'une période d'anarchie militaire, mais cette anarchie militaire était elle-même provoquée par une désorganisation de l'Empire qui risquait la dislocation sous les coups de boutoir extrêmement durs qui lui ont été assénés par l'Empire perse des Sassanides et d'autre part sur le Rhin par le début des invasions germaniques.
Et c'est en même temps une période de formidable mutation.
Absolument. Alors, ceci a provoqué des mutations et pour éviter la dislocation, on a par exemple décentralisé. Et on va avoir des provinces beaucoup plus petites, on va avoir un empire qui sera coupé en quatre morceaux, mais en quatre morceaux extrêmement unis l'un à l'autre, grâce à la reprise en main des officiers illyriens dans la seconde partie du IIIe siècle, et en particulier à Dioclétien, dont il nous reste cet extraordinaire palais sur la côte méditerranéenne, devant une promenade des Anglais pleine de palmiers à Split, dans la Croatie actuelle. Et qu'il avait fait pour justement se retirer. C'était sa maison de retraite. Elle n'est pas mal, elle est un peu grande. Bon. Donc, Dioclétien va organiser un système de répartition des pouvoirs qu'on va appeler la tétrarchie. C'est-à-dire le pouvoir des quatre, la bande des quatre, si vous voulez, la bande des quatre empereurs, mais qui sont représentés toujours comme s'appuyant l'un sur l'autre. Et là, il faut aller voir, au moins en photographie, l'extraordinaire représentation des tétrarques, deux par deux se tenant par l'épaule, Dioclétien et Maximien, et puis ceux qu'ils ont choisis pour les remplacer, ou tout au moins pour les épauler, au titre non pas d'Auguste, mais au titre de César, qui ont été Galère et Constance Levert, Constance Chlore. Bien. Donc, voilà ce qui va être l'armature nouvelle de ce qu'on a appelé le bas-empire, mais de ce qui est l'Empire romain dans l'Antiquité tardive.
Et qu'aujourd'hui, donc, les historiens n'utilisent plus cette dénomination d'Antiquité tardive.
Si, ils l'utilisent au contraire pour lutter contre le long règne des Romains de la décadence.
D'accord.
Alors, décadence, oui, sur certains points. On ne peut pas refaire ce qui a été détruit pendant la crise du IIIe siècle, mais on peut au moins essayer de le réparer et partir sur de nouvelles bases en prenant les choses telles qu'elles sont.
Alors, Jacques Fontaine, pourriez-vous justement clarifier pour nos auditeurs ce qu'on entend par patristique, patrologie, et d'abord, qui regroupe-t-on sous le vocable de père de l'Église ?
Alors, pour le vocable de père, il faut partir, n'est-ce pas ? D'ailleurs, vous avez un article père dans le dictionnaire qui, très justement, vous indique qu'on appelait ainsi les sénateurs, les pères conscrits. Donc, pater aeneas, n'est-ce pas ? Aîné, le vénérable père d'Anchise, c'est un titre de respect. C'est un titre de respect et qui va être appliqué, justement, à l'intérieur de la transmission doctrinale du christianisme aux auteurs qui sont réputés comme représentant l'orthodoxie en face des hérésies, comme d'autre part des auteurs anciens, au fur et à mesure que le temps passe, ils sont de plus en plus antiques, si j'ose dire, et qui vont être par conséquent les représentants par excellence de la doctrine chrétienne. Alors, il est évident qu'il y a des grands pères de l'Église, et d'ailleurs il y aura un peu plus tard, ça n'est pas dans le dictionnaire d'ailleurs, il y aura un groupement de quatre pères de l'Église latine et de quatre pères de l'Église grecque. Alors, on aura en Occident, on aura Ambroise, Jérôme, Augustin, et puis Grégoire le Grand qui est d'un peu plus tard. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas à la place de Grégoire le Grand un peu plus tôt, ou tout au moins en complément, on pouvait en mettre cinq, pourquoi pas, Hilaire, qui a été un homme qui a eu une grande influence, un génie spirituel et intellectuel considérable, mais qui est avant les autres, qui est au milieu du IVe siècle.
Et quelle est la différence entre patristique et patrologie ?
Il n'y en a pas. Patrologie a été longtemps le mot utilisé pour désigner un discours sur les pères, de même que théologie, un discours sur Dieu, n'est-ce pas ? Mais peu à peu, ce livre, il s'est réduit à un livre. Quand je dis « je vais chercher une patrologie », la patrologie d'Altaner, c'est un livre. Alors qu'aujourd'hui, la science des pères de l'Église, leur étude scientifique, eh bien, leur édition par des éditions critiques, etc., ça, c'est la patristique. Alors, la patristique a pris son essor, on peut peut-être parler de cela.
Alors, comment s'est effectuée dans l'historiographie des derniers siècles, justement, cette reconnaissance des pères de l'Église ? Comment s'est développée l'histoire des religions antiques et plus particulièrement la patristique ?
Alors, c'est une question fleuve
et voilà.
Redoutable. Moi, j'insisterai simplement sur les points, les événements qui ont marqué l'internationalisation de la patristique. Il y a eu, nous en reparlerons, c'est pourquoi j'y passe simplement, la création de la collection des sources chrétiennes.
On y viendra juste après.
On y viendra juste après. Pour le moment, nous allons dire qu'après la guerre, il y a eu une première création de réunion internationale à Oxford, avec le Reverend Cross. Et c'est en 1951 qu'a eu lieu la première réunion, la première Conference on Patristic Studies, conférence d'études patristiques, qui regroupait des gens venus du monde entier, qui venaient présenter leur travail, présenter un point de détail, c'était un peu un colloque aussi, puis se rencontrer pendant 8 jours, n'est-ce pas ? Pendant 8 jours. Et ça, ça avait lieu tous les 4 ans. Ça, c'est la première manifestation.
Ce sont les Anglais qui ont créé ces conférences, donc.
Exactement, exactement. Et ensuite, alors, c'est par une création internationale qu'a été créée l'Association internationale d'études patristiques, ou AIEP dans son abréviation, qui a été créée en 1965, plus exactement que oui, qui a été organisée en 1965, à l'instigation d'un homme qui a joué un très grand rôle et qui a été un très grand patristicien, c'est Monseigneur Michele Pellegrino, qui était archevêque de Turin. Cardinal archevêque de Turin, très francophile et francophone, et un certain nombre de représentants des grands pays entourant la France, et même de petits pays, nous allons pas les énumérer pour ne pas perdre de temps, mais nous dirons simplement que cette association a eu une activité bénéfique qui est de créer un bulletin qui est toujours vivant, un bulletin d'information qui, tous les ans, rassemble tout ce qui se fait dans le métier et surtout tout ce qui va se faire. Quand quelqu'un a un projet, il peut le signaler. Quand quelqu'un cherche des collaborateurs, eh bien, il envoie un article, ce bulletin d'information, qui est vraiment un instrument de liaison très efficace et très développé, au fond, malgré sa périodicité modique.
Mais qui est un outil indispensable pour les chercheurs.
Absolument.
Alors, y a-t-il eu des collections fondées par les historiens à cette époque-là ?
Oui. Il y avait déjà eu une collection de Hemmer et Leger avant la guerre de 14, n'est-ce pas ? Parce que la patristique est rentrée dans l'université par un certain nombre de gens que j'appellerais les fondateurs au temps de Mgr Duchesne, au début de ce siècle. Il y a eu mon prédécesseur à la Sorbonne, pas immédiate, mais qui a été Pierre de Labriole, qui est le premier qui, en 1924, a publié une littérature latine chrétienne. Alors aujourd'hui, on tend plutôt, n'est-ce pas, à ne pas séparer les chrétiens des païens, tout au moins quand on traite de problèmes littéraires ou de problèmes linguistiques. Ça a été le fait de mon maître Jean Baillet qui, dans sa littérature latine, qui a paru pendant la guerre, eh bien, a fait un chapitre qu'il a appelé, on peut discuter parce que c'est vraiment un blocage de deux périodes qui sont quand même assez différentes, la Renaissance Constantino-Théodosienne. C'est-à-dire qu'il a mis sur le même plan, ou tout au moins qu'il a mis l'un à côté de l'autre, et il a eu raison. En ce sens-là, Constantin, qui, il faut le rappeler, n'est-ce pas, a donné la liberté au christianisme, nous allons revenir là-dessus, si vous voulez, dans un instant, sur le christianisme, qui est un élément de l'Antiquité tardive, qui n'a peut-être pas été assez traité comme tel dans les divers articles du dictionnaire, c'est-à-dire cette espèce d'unité qui existe entre le christianisme et le non-christianisme, disons, pour un certain nombre de problèmes. Donc, il y a eu cette apparition de Constantin. Et alors là, nous pouvons dire un mot. Donc Constantin qui, en 315, dans ce qu'on a appelé, mais c'est un nom qui ne correspond pas à la réalité, l'édit de Milan, oui, a accordé que chacun pourrait suivre la religion de son choix. Oui. C'est donc la liberté des cultes qui a été instituée. Et ensuite, avec une faveur extrême accordée au christianisme, après d'ailleurs la terrible dernière grande persécution du début du IVe siècle, qui était encore dépendante, on pourrait dire, de la tétrarchie et de Dioclétien, qui ont essayé de rétablir cette unité politique fondée sur une base religieuse et fondée sur le culte de l'empereur. Et alors ça, évidemment, les chrétiens ne pouvaient pas l'accepter, le culte de l'empereur. Alors ça a été vraiment une très grave période, mais immédiatement après, ça a été la liberté accordée à tous les cultes, et ce sera alors le développement du christianisme au IVe siècle, qui n'est pas exactement notre sujet, mais il faut quand même bien en dire un mot, et qui va aboutir à la fin du siècle, sous l'empereur Théodose, à la proclamation, nous simplifions les choses, n'est-ce pas,
oui,
du christianisme comme religion d'État, en plaçant l'ancienne religion d'État païenne.
Alors, il n'y a pas d'histoire sans source. Le recueil des sources, leur édition, leurs commentaires, leur collecte, leur dépôt dans les instituts, dans les bibliothèques, dans les fondations, est le premier travail des historiens et des chercheurs. Alors, pouvez-vous, Jacques Fontaine, nous raconter l'extraordinaire réussite éditoriale que constitue une autre entreprise, l'entreprise de la publication de la collection Sources chrétiennes par les éditions du CERF.
Je la crois très importante. Il faut dire aussi que des collections ont commencé à se fonder dans de grands pays où la patristique avait un rôle essentiel, comme l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre. Mais l'histoire des sources chrétiennes est assez exemplaire et extraordinaire, n'est-ce pas ? C'est en 1942 que trois jeunes jésuites qui faisaient leur théologie, n'est-ce pas, à Fourvière, dans la jésuitière de Fourvière, si vous me permettez ces mots, eh bien, se sont intéressés au père avec une idée qui était non pas de faire une théologie nouvelle comme de méchants néo-thomistes les en ont accusé, mais de renouveler la théologie par un pèlerinage aux sources, et qui sont les sources chrétiennes, les sources patristiques. Et c'est à ce moment-là que Jean Danielou, qui était non seulement jésuite et qui est devenu cardinal, mais qui aussi a été, il faut pas l'oublier, a fait des études classiques, a été docteur à l'Institut catholique, et ensuite docteur d'État. Il était donc à la fois agrégé de grammaire et docteur d'État. Il avait donc les bénédictions qui sont celles d'un laïc normal dans l'université. Et il a enseigné d'ailleurs les lettres classiques au collège de Poitiers, par exemple, pendant un certain temps. Mais en 1942, il s'est lancé alors dans ce qui était son charisme particulier, qui était l'étude de Grégoire de Nice, où il a montré un mystique extraordinaire, et en particulier dans un ouvrage qui a été le tome 1 des sources chrétiennes paru en 1943, c'est-à-dire La vie de Moïse. Mais depuis, alors les choses se sont développées d'une façon assez extraordinaire,
puisque cette aventure commencée sous l'occupation se poursuit aujourd'hui.
Oui. Elle avait, vous faites bien de rappeler ça, elle a quand même le sens d'une affirmation du christianisme en face du nazisme. Ça n'était pas violent, il y avait certainement beaucoup des gens qui s'intéressaient aux deux et qui s'intéressaient à la fois à la lutte que menait la résistance en même temps qu'ils continuaient des études et des recherches, n'est-ce pas? Et alors, les sources chrétiennes ont donc démarré à Lyon, et ensuite alors, elles se sont développées considérablement grâce à l'Institut des sources chrétiennes qui existe encore aujourd'hui, et elles ont lancé un certain nombre de gens dans un certain nombre d'études. J'ai moi-même, en 1968-69, j'ai 63-66, je crois, je me rappelle plus. Mais j'ai publié en 3 tomes La vie de Saint-Martin.
Oui.
Et alors, on a donc eu de grands auteurs. Vous ne trouverez pas beaucoup de Saint-Augustin, parce que pour Saint-Augustin, nous avions résolu avec le Père Mondésert d'en laisser le privilège d'édition,
n'est-ce pas, qui a
à l'Institut d'études augustiniennes, qui est quand même une institution très importante pour nos études, encore aujourd'hui, et d'où on vient travailler à Saint-Germain-des-Prés du monde entier.
Alors, effectivement, cette collection sources chrétiennes constitue une pièce maîtresse du retour aux sources bibliques, liturgiques et patristiques du christianisme. Était-ce un projet à la fois intellectuel et spirituel ?
Oui, certainement. Je vous en ai indiqué l'orientation, n'est-ce pas, pour véritablement renouveler la théologie par une connaissance approfondie des pères. Eh bien, il fallait bien les faire connaître, d'où alors la nécessité de commencer par diffuser cette collection des sources chrétiennes.
Alors, cette entreprise a-t-elle reçu justement une reconnaissance scientifique ?
Oui, elle a reçu une connaissance scientifique assez rapide, parce que le centre du livre, le Centre national de la recherche scientifique ont accordé des crédits dans les productions et ont soutenu justement l'Institut des sources chrétiennes.
Oui.
Ça a été d'autant moins difficile que quand même beaucoup des collaborateurs étaient des universitaires qui donc étaient professeurs d'université et pour un certain nombre, comme il m'est arrivé un certain nombre d'années, membre du Conseil national et donc était appelé à voter pour les subventions accordées justement par le Centre national de la recherche scientifique.
Jacques Fontaine, quel fut le rôle particulier de l'Académie des inscriptions et belles-lettres dans justement l'étude rationnelle des pères de l'Église ?
Eh bien, son intervention s'est située dans le cadre de la célébration du cinquantenaire des sources chrétiennes en 1993. Il y a donc eu les sources chrétiennes et l'histoire, les sources chrétiennes et la théologie. Ça, ce sont des sessions, si vous voulez, des célébrations qui se sont passées à Lyon et à Paris, d'ailleurs, mais pas chez nous, si j'ose dire. Et c'est à cette occasion que l'Académie des inscriptions et belles-lettres a consacré sa séance publique annuelle du 26 novembre 1993 à un thème qu'on a appelé, je n'y étais pas étranger, « Patristique et littérature, commémoration du cinquantenaire des sources chrétiennes ». Alors, il y a eu 6 conférences, et en particulier, il y a eu des conférences sur la poésie latine chrétienne, sur les auteurs chrétiens grecs, donc c'était le regretté Antoine Guillaumont qui a fait cela, et aussi le regretté André Vernet, qui avait été secrétaire et directeur de l'école des Chartes, et qui a traité justement de la survie des pères dans la culture médiévale. Alors ça nous a donné un ensemble qui était très important pour nous, parce qu'en 1794, sur un décret de la Convention, on avait jeté bas les 4 pères d'Orient et les 4 pères d'Occident, dont les statues siégeaient sur la corniche surmontant la porte d'entrée sur le quai.
Et donc, sur le quai, sur
ils sont descendus sur le quai et ils sont rentrés par la fenêtre, si j'ose dire, grâce à ces publications et grâce à cette très belle séance à laquelle d'ailleurs Jean Leclan a pris une part tout à fait personnelle.
Alors, je vous propose de marquer une courte pause musicale et de nous retrouver dans quelques instants. J'accueille aujourd'hui dans l'émission Un jour dans l'histoire Jacques Fontaine, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, historien de la littérature latine tardive de l'Antiquité et du Haut Moyen-Âge, pour nous parler justement de la littérature latine chrétienne et de la culture de l'Antiquité tardive. Alors, Jacques Fontaine, pourriez-vous justement nous expliquer ce qu'on entend par latin classique, latin tardif, latin chrétien? Quelles sont les autres langues, d'ailleurs, des sources chrétiennes? Les œuvres des pères de l'Église constituent une grande richesse littéraire, linguistique et stylistique.
Eh bien, les autres langues, on peut en dire un mot tout de suite, il y a pas mal de langues orientales, il y a l'arabe, il y a l'arménien, l'Arménie est un pays chrétien très fidèle à Rome, mais encore, n'est-ce pas? Et puis, les coptes en Égypte, il y a des ouvrages en copte, il y a des ouvrages donc en arménien, il y a des ouvrages en géorgien, et même d'autres langues, les langues orientales, ont un rôle très important. Naturellement, le grec tient une place considérable, puisque c'est lui qui, comme toujours, est au centre de l'évolution, au moins pour nous. Alors, en Occident, vous me posez une question sur le latin tardif et le latin
classique. Latin classique et latin chrétien.
Oui. Alors, je le fais d'autant plus volontiers que les choses ne sont pas très claires dans le dictionnaire. La personne qui a très bien fait, d'ailleurs je la connais depuis longtemps, le latin chrétien ne s'est pas assez appuyé sur le fait que le latin chrétien est une variété du latin tardif. Alors, l'histoire de l'étude du latin des pères a évolué ainsi. Il y a d'abord eu une école hollandaise qui a cru pouvoir affirmer que le latin des chrétiens était une langue de groupe, comme si c'était la langue d'une tribu dans une île isolée, n'est-ce pas, de l'Indonésie. Alors, non, on s'est aperçu, à la fin de sa vie d'ailleurs, la personne qui avait soutenu cette thèse a abjuré cette thèse, disant que non, c'était pas exactement ça. Alors, il y a des éléments spécifiquement chrétiens dans le latin tardif, quand il est traité par des chrétiens. Mais commençons d'abord, si vous voulez, par cette notion de latin tardif, parce qu'elle a été explorée, analysée, bien fixée dans ses spécificités phonétiques, lexicales, syntaxiques, par le grand philologue suédois Einar Löfstedt. qui, à la fin de sa vie, a écrit un livre, Late Latin, qui d'ailleurs a été publié à Paris aussi bien qu'en Suède. Et c'est vraiment un manuel de base, si vous voulez, sur le latin tardif. Et on sait que le latin tardif est très important. Et là-dedans, vous avez un chapitre sur la spécificité chrétienne. Donc le chrétien, l'un chrétien, même s'il a pris ensuite une importance beaucoup plus considérable, puisque les auteurs païens ont disparu, mais c'est d'abord présenté comme une spécificité, une espèce particulière du latin tardif. Donc, vous voyez, latin classique, c'est celui qui continue d'enseigner dans les écoles. Et c'est très important pour nos auteurs, parce qu'ils ont fait des études classiques dans les écoles qui n'ont guère changé, les programmes n'ont guère changé. Ça, c'est très important. Donc, il a subsisté comme une formation de base, même pour les chrétiens, y compris pour les chrétiens. Et dans cette période, c'est-à-dire 4e, 5e siècle. Et c'est peu à peu que le latin chrétien s'est spécifié. Alors, il y a eu de grands ouvrages, comme l'ouvrage sur le vocabulaire théologique de Tertullien, qui était extrêmement important parce qu'il est le premier grand auteur de la latinité chrétienne avec Cyprien. Et d'ailleurs, il y a de bons articles, justement, sur ces auteurs dans le dictionnaire.
Merci, Jacques Fontaine. Quelles sont donc les entrées générales du dictionnaire de l'Antiquité, justement relatives au christianisme et à ses sources? Je rappelle que c'est une volonté d'ailleurs des auteurs de ce dictionnaire d'avoir établi sous un même ensemble l'antiquité païenne et l'antiquité chrétienne que vous venez d'ailleurs d'évoquer.
Il y a un grand article excellent sur christianisme et culture.
Oui.
Ça, il est très important. D'autre part, il y a un article père, il y a un article patristique qui sont également importants. Et c'est par là, il me semble, qu'il faut entrer dans les problèmes posés par l'inspiration particulière des pères de l'Église, en particulier pour ce qui est de leur doctrine, les rapports avec la pensée païenne qui ont évolué. Il y a d'abord une négation, ensuite il y a une conciliation et une adoption, où, comme dit plaisamment Peter Brown, le très agité Peter Brown, qui a toujours de grandes idées et qui est fort intelligent, qui nous a fait un très bon livre sur saint Augustin, etc. Eh bien, Peter Brown a dit dans un chapitre d'un de ses livres qu'il y a eu un moment où l'Église s'est convertie à la culture. Mais pas la conversion de la culture, mais c'est, l'Église s'est convertie. Et je crois que c'est très vrai et que à partir du moment, n'est-ce pas, où il n'y avait plus d'obstacles religieux, où, comme nous l'avons dit, on est passé d'une situation de privilège à une situation d'exclusivité, pour ainsi dire, après Théodose, eh bien, à ce moment-là, il n'y avait plus de problème, et donc, le latin est devenu le latin tardif, d'ailleurs, et peu à peu a été envahi ou innervé par le latin chrétien, étant donné que il y avait des pays de l'Occident qui n'étaient pas romanisés, la Gaule en particulier, n'est-ce pas? Elle était romanisée, mais pas linguistiquement. Ouais. Dans les campagnes, on continuait à parler des patois celtiques. On le voit avec les inscriptions qui sont encore retrouvées, pas seulement sur le plateau du Larzac, on a trouvé une inscription d'une confrérie de sorcières. Enfin, ceci est un détail. C'est à partir du 5e, 6e siècle que le clergé étant très fortement organisé, donc nous avons eu des gens qui ont prêché dans les campagnes. Saint-Martin est un bon type, n'est-ce pas? Fin du 4e siècle. Fin du 4e siècle, 5e siècle. À partir de ce moment-là, pour christianiser, il a fallu romaniser. Il a fallu latiniser. Et c'est à ce moment, justement, que les gens ont bien été forcés d'apprendre le latin et qu'on le leur a appris, et que la prédication, la lecture liturgique des textes en latin a certainement été une école linguistique excellente pour la population de ce qu'on appelle maintenant la Romanea.
Alors, trouve-t-on dans ce dictionnaire des entrées concernant les genres littéraires?
Oui, on en a pas mal. Et alors, il y a des entrées qui ont ajouté une partie chrétienne à des genres existants à l'époque classique. Il y en a d'autres, au contraire, qui sont spécifiquement chrétiennes, portant d'ailleurs des noms grecs, ce qui indique l'origine du christianisme en Occident. C'est le cas de l'exégèse. L'exégèse, ça veut d'abord dire l'explication des textes, l'explication grammaticale des auteurs, ce qui se faisait dans l'école, pour ainsi dire, et dans la tradition classique. Mais l'exégèse est devenue une exploration du mystère du Christ et du contenu, par conséquent, de la révélation judéo-chrétienne à travers, justement, une intelligence meilleure des textes traduits et des textes commentés. Et les commentaires ont été des commentaires écrits ou des commentaires héros, d'où l'importance de ce qu'on appelle, dans mon grec d'ailleurs, l'homilétique, qui est au fond une rhétorique de l'éloquence chrétienne, l'éloquence des évêques parlant à leurs convertis ou à leurs paroissiens, n'est-ce pas? Alors, il y a eu aussi pas mal de gens liturgiques. La liturgie a produit beaucoup de choses et un certain nombre de mots aide à retrouver ceci. Vous avez un article chant, pour prendre un article extrêmement précis, et le développement aussi de la célébration des saints, l'hagiographie, mot grec, mais qui s'est développé beaucoup en latin au fur et à mesure que le culte des saints s'est développé en Occident, c'est-à-dire 5e, 6e siècle. Et donc là, vous avez un certain nombre de genres qui sont particuliers. Et puis alors, en ce qui concerne la poésie, alors là, les choses sont parties du 3e siècle, avec des essais tout à fait curieux chez Commodien, chez Lactance, le poème sur l'oiseau phénix, qui par sa résurrection mythique est devenu un symbole du Christ, au fond. Et ensuite, alors, vous avez eu, au milieu du 4e siècle, les grands évêques intellectuels, on pourrait dire, savants, et en étant écrivains, comme Hilaire, Ambroise, Augustin, Jérôme. Et de là, on est passé, n'est-ce pas, à une littérature qui a des genres littéraires qui se sont développés de façon quasi autonome à l'intérieur du christianisme. Il y a des articles géographiques qui sont importants. Vous avez par exemple des articles Afrique, Espagne, Milan, avec une partie chrétienne. Ça, c'est très important. Et il y a aussi les réalités, ce qu'on appelle les réalia dans la tradition des archéologues. L'archéologie chrétienne, un très bon article. Et puis, on s'est intéressé aussi alors à des productions justement de l'art chrétien, comme la peinture, la mosaïque, l'orfèvrerie. Mais je crois qu'on peut encore développer ces arts et que s'il y a des articles généraux très intéressants sur baptistère, sur basilique, eh bien, il nous manque encore des articles un peu spécifiés, étant donné que le développement de l'architecture chrétienne s'est fait de façon différente et s'est différencié à travers les différents pays de l'Occident.
Voilà, là vous évoquiez justement toutes les différentes entrées générales du dictionnaire de l'Antiquité. Revenons un petit peu sur les auteurs chrétiens de l'Antiquité qui sont mentionnés. Vous en avez évoqué quelques-uns là, mais quels sont les grands auteurs chrétiens de l'Antiquité mentionnés dans le dictionnaire de l'Antiquité ?
Eh bien, je crois que nous les avons déjà cités, c'est les pères de l'Église à proprement parler, les pères oui. de l'Église d'Occident, c'est-à-dire Tertullien et Cyprien au 3e siècle, et puis alors au 4e siècle, nous allons vite, ceux que j'ai déjà cités, c'est-à-dire Hilaire, Ambroise, Jérôme, Augustin, en poésie, Paulin de Nole et Prudence, dont nous reparlerons puisque j'ai choisi quelques vers de Prudence pour les citer à la fin de cette émission, qui a été le grand poète chrétien latin, d'origine hispanique d'ailleurs. Donc, il y a eu un développement de la poésie latine chrétienne et il faudrait peut-être renforcer un petit peu ce qui concerne les arts.
D'accord. Quelles sont les monographies qui ne rentrent pas dans la classification de ces grands auteurs ?
Eh bien, j'allais dire, ce sont les petits auteurs
oui.
qui sont très peu connus du public, encore moins, n'est-ce pas, que les pères, mais auxquels on a consacré des articles qui sont substantiels et qui apportent l'essentiel. En particulier, une série intéressante est celle qui tourne autour de monachisme. On a fait un article Saint-Benoît, bien que Saint-Benoît soit ultérieur au premier siècle chrétien, pour ainsi dire, vraiment christianisé. Et on a traité, justement, des règles monastiques. Il y a là toute une série d'articles sur le monachisme et qui sont extrêmement intéressants et qu'on ne peut pas classer parmi les grands pères de l'Église.
Alors, quelle est justement la part des historiens, des archéologues, des historiens de l'art, des linguistes parmi les auteurs des entrées de ce dictionnaire? On a vu tout à l'heure que, effectivement, par les entrées que vous aviez évoquées,
eh bien,
ils avaient tous participé.
Je ne vous les citerai pas, puisque nous avons décidé, je crois que c'est assez sage, de ne pas citer des vivants.
Oui.
Mais ils sont vivants, puisqu'ils ont écrit des articles, n'est-ce pas? Mais ce que je peux dire, c'est que ce sont d'excellents spécialistes qui ont écrit ces choses, même dans des parages un peu particuliers comme l'orfèvrerie.
Oui.
Comme l'orfèvrerie ou comme la liturgie. On a là des gens qui ont travaillé déjà toute leur vie, qui ont derrière eux une production scientifique dont on retrouve quelques traces discrètes, mais c'est bien qu'ils soient là et qu'elles ne soient pas trop nombreuses dans les bibliographies. Mais je veux dire que tous les articles ont été faits par des spécialistes.
Oui.
Et des spécialistes universitaires en grande majorité.
À votre avis, quel sujet ou quelles entrées pourraient manquer sur les sources chrétiennes?
Qu'on explique, il y a déjà crise du 3e siècle, mais le 3e siècle excite un peu, puis ne nous emmène pas vers l'Antiquité tardive à vraiment parler.
Je vous propose de marquer une courte pause, à nouveau une courte pause musicale, et de rester en compagnie de Jacques Fontaine, historien des littératures latines chrétiennes, et de le retrouver dans quelques instants. Nous retrouvons aujourd'hui Jacques Fontaine, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, historien des littératures latines, chrétiennes de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge, justement pour nous parler de la littérature latine chrétienne et de la littérature de l'Antiquité tardive. Et dans cette dernière partie de l'émission, justement, nous allons voir avec lui quels ont été ses grands centres d'intérêt au cours de sa carrière et au cours de ses recherches qu'il poursuit toujours. Qu'est-ce qui est à l'origine de votre goût des études latines, Jacques Fontaine?
C'est très difficile de définir les raisons d'un goût. C'est une attraction spontanée et qui s'est confirmée avec les années et qui s'est spécifiée un petit peu lorsque j'ai fait 3 ans de séjour à la Casa Velázquez et où j'ai commencé à travailler sur les auteurs latins chrétiens d'Espagne. Et évidemment, je me suis trouvé devant un monument dont j'ai fait le tour avant de savoir comment j'en trouverais la porte, qui est Isidore de Séville, qui est considéré comme le 5e père de l'Église d'Occident d'ailleurs, et qui a certainement joué un très grand rôle dans la transmission de la culture antique.
Ce fut le sujet de votre thèse ?
Le sujet de ma thèse, c'était Isidore de Séville et la culture classique dans l'Espagne visigothique. Ça voulait dire qu'il ne s'agit pas seulement de faire un bilan des auteurs connus, de la façon dont ils les utilisaient, dont ils les comprenaient, mais aussi de voir s'il y avait une inflexion propre à la personnalité d'Isidore et à l'Espagne visigothique. Alors ceci, première édition en 54 et deuxième édition en 83, 3 volumes. Et j'ai ensuite continué en 1960, j'ai publié une édition qui était ma thèse complémentaire, une édition du De Natura Rerum, le traité de la nature d'Isidore de Séville, et où j'ai été particulièrement intéressé par les problèmes de langue et où j'ai écrit vraiment un chapitre sur la langue d'Isidore de Séville qui continue à être considéré comme important aujourd'hui.
Et enfin, j'ai
un peu fermé ce chantier en 2000 en écrivant un ouvrage qui s'appelle Isidore de Séville et la culture hispanique au temps des Visigoths.
Voilà, Isidore de Séville, genèse et originalité de la culture hispanique au temps des Visigoths.
Voilà. Ce qui d'ailleurs a été déformé probablement par ma faute dans la bibliographie de mon article, dans le dictionnaire. Et voilà, je veille à que ça soit rectifié dans la deuxième édition qui ne tardera pas certainement à venir. Alors, je continue. Cette orientation vers l'Espagne m'a orienté vers l'idée de tracer le cadre dans lequel ont pensé, ont été formés, ont vécu les écrivains chrétiens d'Espagne. Et je me suis dit, il n'y a qu'une façon de s'y mettre, c'est d'examiner l'évolution de l'art paléochrétien en Espagne. Et j'ai écrit 2 volumes qui ont été publiés dans la collection Zodiac, l'un sur, alors, qu'on a intitulé l'Espagne pré-romane pour ne pas faire de peine aux Portugais. Et alors, ne pouvait pas mettre Espagne paléochrétienne, Espagne pré-romane, et où j'ai examiné successivement l'art paléochrétien au 5e siècle essentiellement, l'art wisigothique au 7e, et ensuite un deuxième volume sur l'art asturien, l'art du royaume asturien au 8e, et l'art des chrétiens arabisés qui étaient les mozarabes.
Alors Jacques Fontaine, puisque vous évoquez justement que dans votre parcours de chercheur, à un moment vous avez abordé, en joignant à vos études des sources chrétiennes, l'art pré-roman hispanique, comment un philologue comme vous a-t-il voulu expliquer les églises, en l'occurrence les églises d'Espagne?
Bon, il faut qu'il travaille un peu plus. Vous savez, une grande partie de nos philologues d'université sont des gens qui également s'occupent d'archéologie et d'histoire de l'art. Donc je n'ai pas lancé la mode.
Non, non.
Mais je l'ai fait en restant dans mes petites chaussures de philologue, si vous voulez. C'est-à-dire que j'ai dit, je vais essayer de m'expliquer les églises comme j'explique les textes. Et j'ai pris des notes directement sur les églises en les visitant par deux fois au cours de la rédaction de ces ouvrages.
Puis-je vous demander quels sont les pères de l'Église qui ont votre préférence?
Eh bien, écoutez, on peut dire, je pense, que je me suis beaucoup intéressé à Sulpice Sévère à cause de la vie de Saint-Martin. Et j'ai encore d'ailleurs un tome qui doit paraître cette année sur les dialogues sur la vie de Saint-Martin, qui doit s'appeler Gallus, selon le nom que Saint-Jérôme leur a donné 10 ans après leur publication à la fin du 4e siècle. Mais j'avais déjà posé un premier jalon dans des conférences que je suis allé donner chez Michele Pellegrino, dont j'ai dit un mot, à Turin en 1963, et qui ont paru à Turin en 1954, la prose d'art latine au 3e siècle, la genèse des styles latins chrétiens. Alors c'était une bonne base qui partait d'études très serrées, d'analyses de textes pas très nombreux, mais que j'ai essayé de presser jusqu'à les épuiser, si j'ose dire, des textes de Tertullien et de Cyprien. Et donc, j'ai abordé la littérature du 3e siècle par là, et ça m'a donné une base pour ensuite continuer à poser des jalons dans des éditions, édition de Tertullien sur la couronne, une édition aussi d'un auteur païen dont je regrette amèrement, je suis probablement pas le seul, mais les historiens davantage, l'absence dans le dictionnaire, c'est le plus grand historien de l'Antiquité tardive, Ammien Marcellin. Les Res Gestae et Damien Marcellin, ça c'est un petit scandale, mais enfin il faut bien qu'il y en ait un pour faire une seconde édition. Et voilà.
Ça sera l'occasion.
Alors j'ai continué à travailler aussi sur Sulpice Sévère, bien sûr, et il va paraître cette année, dans la revue d'études latines, un travail sur Sulpice Sévère et l'esthétique de la prose théodosienne, c'est-à-dire du temps de Théodose à la fin du 4e siècle. Voilà l'essentiel de mes travaux.
De tous les auteurs donc que vous avez édités, traduits, sur lesquels vous avez longuement travaillé, Jacques Fontaine, pourriez-vous nous lire ou nous dire quelques vers latins qui vous touchent
sûrement
particulièrement?
Et je vais les choisir justement
et
dans un
je
auteur.
Je crois que vous les avez d'ailleurs même traduits pour Canal Academy aujourd'hui. Et nous vous en remercions d'avance.
Dans des auteurs qui ont mon admiration peut-être la plus grande, c'est-à-dire qu'ils sont les plus grands poètes latins chrétiens, c'est-à-dire Ambroise de Milan et Prudence de Calagurris, qui est Calahorra, qui lui était un laïc.
Vous pouvez nous rappeler leur date à peu près pour les
situer? La fin du 4e siècle.
Ah,
c'est la fin du 4e siècle, le dernier quart du 4e siècle, si vous voulez. Alors voilà, je commencerai par un témoignage très précieux, qui est celui de saint Augustin, lorsqu'il a perdu sa mère à l'automne de 387 à Ostie. Eh bien, il raconte ensuite dans ses confessions, au livre 9 de ses confessions, qu'il était absolument désespéré et abattu, et qu'il s'est rappelé l'hymne du soir à l'heure où l'on allume la lampe, Adoram Incensi, lorsqu'il est tombé justement dans cette misère intérieure. L'amertume de mon chagrin n'avait pas encore transpiré de mon cœur. Je m'endormis ensuite. Puis je me réveillais, je trouvais ma douleur notablement adoucie, et dans la solitude de ma chambre, je me rappelais les vers si vrais de ton serviteur Ambroise. Tu es en effet Dieu créateur de toutes choses, et c'est un hymne du soir, je viens de le dire, maître du ciel, toi qui revêt le jour de lumière éclatante, la nuit des grâces du sommeil, si bien que le repos redonne au labeur coutumier des membres détendus, réconforte les âmes lasses, défend les chagrins angoissés. Vous n'aurez pas manqué de remarquer que ce sont des vers de 8 pieds en français, comme ils sont de 8 pieds déjà en latin. Car c'est extraordinaire, c'est que la prosodie de Jérôme, la métrique d'Ambroise, est à cheval sur l'Antiquité et le Moyen-Âge et les temps modernes, pour ainsi dire, et qu'elle est à la fois accentuelle et en même temps quantitative. Elle est encore quantitative, les quantités successives des syllabes, et d'ailleurs avec des iambes, c'est ce que je viens de lire, n'est-ce pas ? Deus creator omnium, polique rector vestiens diem decoro lumine, noctem soporis gratia, artus solutos ut quies reddat laboris usui, mentesque fessas alleuet, luctusque solvat anxios. Voilà, Augustin, bon
merci
introducteur
beaucoup
de la valeur, justement, de ces vers. Et il ajoute, et puis peu à peu, je revenais à mes premières pensées sur la servante, à sa prière, sur ta servante, à sa piété, je sentis la douceur de pleurer sous tes yeux, sur elle et pour elle, sur moi et pour moi. Voilà ce texte très beau du livre 9 des Confessions de Saint-Augustin. En face de cet hymne du soir, je citerai un hymne du matin qui est tout à fait différent, évidemment. Éternel créateur du monde, toi qui gouvernes nuit et jour, fais succéder les temps au temps pour alléger la lassitude. Le héros du jour, c'est-à-dire le coq, le héros du jour déjà sonne, le veilleur de la nuit profonde, clarté nocturne aux voyageurs, séparant la nuit de la nuit. Par lui réveiller Lucifer, Lucifer qui n'est pas le diable, mais qui est la planète Vénus, qui est la première qui apparaît le matin, porte-lumière, Lucifer. Par lui réveiller Lucifer délivre le ciel des ténèbres, par lui tout le cœur des rôdeurs abandonne les voies du mal, par lui le marin reprend force et la houle des flots s'apaise. La pierre même de l'église, Saint-Pierre, la pierre même de l'église a son chant à laver sa foule. Levons-nous donc avec courage. Le coq éveille ceux qui gisent, invective les somnolents. Le coq confond les renégats. Au chant du coq, l'espoir renaît. La santé revient aux malades. L'arme du bandit se rengaine. La foi s'en retourne aux pécheurs. Et invocation finale. Jésus, regarde qui chancelle. Et par ta vue, corrige-nous. Sous ton regard, nos faux pas cessent. Nos pleurs effacent notre faute. Reprends ton éclat dans nos âmes. Dissipe le sommeil du cœur. Pour toi d'abord, que nos voix sonnent, acquittons nos vœux envers toi. Voilà. Et sur ces vers, nous abandonnons Saint Ambroise et nous passons alors à des vers de Prudence. Voilà un passage important dans l'œuvre de Prudence qui comporte toutes sortes de recueils, n'est-ce pas ? Je vais les citer dans un instant. Mais il a fait une préface en vers dont je donnerai simplement la traduction.
Préface de quel
c'est la préface de l'ensemble de ses œuvres.
L'ensemble de ses œuvres,
c'est-à-dire la Psychomachie, le Contre-Symmaque, il y en a au moins 5 ou 6, n'est-ce
oui.
pas ? Eh bien, que toute proche de sa fin dernière, mon âme pécheresse dépouille sa folie. Que du moins, elle célèbre Dieu par sa voix, si elle ne le peut par ses mérites. Qu'elle enchaîne les jours par des hymnes, qu'aucune nuit ne passe, qu'elle ne chante Dieu. Qu'elle combatte l'hérésie, éclaire la foi catholique, foule aux pieds les cultes païens, porte la ruine aux Roms à tes idoles, consacre son chant aux martyrs, fasse l'éloge des apôtres, et tandis que j'écris ou prononce ces mots, ah, puissais-je jaillir hors des liens de mon corps, libre, là où m'aura porté ma langue agile en ses derniers accents. Voilà la préface générale des œuvres de Prudence. Alors vous verrez ce que vous voulez couper. Et puis maintenant, j'ai choisi alors ce qui est à mon avis certainement un de ses plus beaux poèmes, qui est un peu baudelairien par sa concentration, la force de ses images, et qui est d'un sujet tout à fait étonnant, puisque c'est, dit le titre, à l'intérieur justement d'un texte qui est le livre des couronnes des martyrs, et qui célèbre les martyrs, et en particulier les martyrs d'Espagne.
C'est toujours de Prudence ?
De Prudence, oui, Prudence de Calaguris. Sur des lieux où des martyrs ont souffert, et où se trouve à présent un baptistère à Calahorra. C'est donc martyr et baptême, et l'équivalence, au fond, et qui va apparaître petit à petit entre le baptême de sang du martyr et le baptême d'eau. Le Christ a choisi ce lieu pour y éprouver les cœurs, les conduire au ciel par le sang et les purifier par l'eau. En ce lieu de héros, immolés pour le nom du Seigneur, ont souffert par une belle mort un martyr empourpré. En ce lieu aussi, le pardon coule d'une source limpide dont le courant nouveau efface les fautes anciennes. Alors adresse maintenant aux candidats, aux martyrs ou au baptême, quiconque veut monter au royaume éternel, vienne ici apaiser sa soif, voici la route toute prête. Jadis, des témoins couronnés gravissaient les hauts parvis du ciel, à présent, ce sont des âmes purifiées qui gagnent ces hauteurs. L'esprit, accoutumé à descendre en un vol éternel, allusion à la descente de l'esprit sur la création, début de la Genèse, et puis sur le baptême du Christ, l'esprit accoutumé à descendre en un vol éternel y accorde le pardon aussi bien qu'il avait décerné la palme du martyr. La terre absorbe les rosées sacrées de la source ou du sang et déborde intarissablement toute humide de son Dieu. Le maître dans l'endroit est celui dont par les deux blessures de son flanc coulèrent et se répandirent d'un côté du sang et de l'autre de l'eau. Vous partirez d'ici chacun comme il pourra, emportés à travers les blessures du Christ, l'un par les glaives et l'autre par les os. Voilà ce poème qui est assez étonnant. Et très intelligible une fois qu'on a vu l'équivalence martyr-baptême, et qui est certainement pour moi un des plus beaux, un des plus originaux de Prudence de Calagouris, sur lequel je ferme cet ouvrage.
Jacques Fontaine, nous vous remercions vraiment pour nous avoir éclairé sur ces fameuses sources chrétiennes latines, de nous avoir fait partager votre passion de ces poèmes sur lesquels vous avez travaillé pendant toutes ces années, de nous avoir permis d'entendre d'ailleurs, traduit par vous, des textes donc de Prudence et de Saint-Augustin. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir éclairé aussi sur les entrées générales liées au christianisme dans le dictionnaire de l'Antiquité publié au PUF en 2005 cette année, sous la direction de Jean Leclan, et d'être venu si gentiment nous parler de ces sujets qui ne manqueront pas d'intéresser les auditeurs, parce que la patristique ou les pères de l'Église, ce sont des sujets peu abordés et parfois compliqués pour les gens qui ne les connaissent pas.
Et moi, vous remercie pour tous les enseignants-chercheurs qui, aujourd'hui, à travers la France, dans nombre d'universités, enseignent les auteurs chrétiens et la littérature latine chrétienne et ont fait des thèses sur des sujets de littérature latine chrétienne. Merci,
Jacques Fontaine, merci, monsieur.